Notre constitution est-elle à bout de souffle? Peut-elle survivre à la crise politique actuelle? 45 questions pour comprendre l'histoire politique contemporaine de la France.
5ème République, anatomie d'un régime en crise, un livre France Inter.
France Inter sur les réseaux, Facebook, Instagram, X, TikTok. Abonnez-vous.
Vous êtes dans le 18-20 et il est 19h. Hélène Philippe pour le journal. Bonsoir Hélène.
Bonsoir. Et si l'on créait une sécurité sociale climatique face à la montée inexorable du coût des sinistres liés au réchauffement de la planète, ce serait une révolution de notre système assurantiel. Le Haut Commissariat au Plan ouvre le débat. Il y a un survivant au crash en Inde, un Britannique de 40 ans. Nous sommes à Londres dans un instant après l'une des pires catastrophes aériennes des 20 dernières années. L'actualité, c'est aussi les indépendantistes Kanak, libre, dont leur leader Christian Théin, une première victoire pour leur avocat un an après les émeutes en Nouvelle-Calédonie. La bande de Gaza, privée désormais de toute communication extérieure. Le complément libre choix du mode de garde étendu jusqu'aux 12 ans d'un enfant et non plus 6 dans le cas de parents isolés. Les archéologues inquiets de la suppression des fouilles avant les chantiers, vous les entendrez. Puis au téléphone sonne l'usage de la drogue en entreprise exponentielle selon une étude. Vous nous appelez au 01 45 24 7000. Des maisons menacées par l'érosion, fissurées par les sécheresses, inondées par les pluies diluviennes. Le coût des sinistres liés au changement climatique ne cesse de gonfler. La prise en charge toujours plus chère et tout cela ne va pas s'arranger. Le Haut Commissariat à la stratégie et au plan imagine donc une révolution du système qu'on connaît aujourd'hui. Bonsoir Claire Chaudière.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Le plus audacieux des trois scénarios qu'il imagine serait de créer une sécurité sociale climatique sur le modèle de la sécu qu'on connaît.
C'est exactement ça. Dans ce système, plus de primes d'assurance pour les risques climatiques en tout cas, mais des cotisations climat payées par les propriétaires, les bailleurs, les locataires, leur permettant de bénéficier d'une couverture universelle face à ces aléas. Votre maison est inondée, vous faites appel à la branche météo de cette sécurité sociale, c'est de la préfiguration très concrète. Hein. La branche sécheresse, elle serait là pour prendre en charge la prévention et les réparations de maisons fissurées. Et la branche zone inhabitable, le sujet des maisons sur le trait de côte ou bien là où la montagne s'effondre. On est vraiment dans une mutualisation du risque, insiste Clément Beaune, le haut commissaire à la stratégie.
Et ça ne risque pas de braquer les assureurs?
Alors peut-être, mais pas forcément. Aujourd'hui, les assureurs tirent plutôt la sonnette d'alarme, estiment qu'ils ne peuvent pas tout prendre en charge. Ils sont d'ailleurs critiqués pour la hausse de leurs tarifs ou la non-prise en charge de certains ménages. Là, eh bien, on leur enlèverait, entre guillemets, ce fardeau. Par contre, eh bien, il faudrait que les primes d'assurance baissent, expliquent les auteurs et les autrices de ce rapport, car il y aurait forcément moins de sinistres à indemniser.
Et ce serait un changement qui irait très loin, Claire. Le haut commissaire imagine donc des marches intermédiaires.
Oui, une première marche qui consisterait à dire l'État met 2 milliards d'euros pour aider les plus précaires à payer leurs primes d'assurance dans les zones les plus à risque et oblige les assureurs à jouer leur rôle dans ces zones-là. Et puis une deuxième marche qui coûterait, elle, 5 milliards où l'on créerait une sorte de mini-sécurité sociale juste sur le sujet explosif des maisons fissurées. En tout état de cause, la facture climatique existera. La question, conclut ce gros travail de 2 ans, c'est de savoir qui paiera et avec quel niveau de solidarité.
Et le haut commissaire réunira lundi l'ensemble des acteurs du secteur concernés pour ouvrir le débat. Merci beaucoup Claire Chaudière. Le dérèglement du climat qui pourrait conduire à des hivers polaires en Europe si les courants marins de l'Atlantique venaient à faiblir fortement sous l'effet du changement climatique, à s'écrouler, un cas peu probable mais possible, jugent des chercheurs néerlandais sur lequel il faut aussi se pencher. Dans ce cas, les températures pourraient tomber jusqu'à moins 50 en Norvège en hiver, moins 18 à Paris d'ici à la fin du siècle. Un éventuel très grand écart à prendre en compte aussi dans nos stratégies d'adaptation, jugent ces chercheurs.
À la une ce soir également, il y a l'image de ce Boeing encastré dans un immeuble.
L'une des pires catastrophes aériennes des 20 dernières années. L'avion avait à peine décollé dans le nord-ouest de l'Inde qu'il a perdu toute sa puissance et s'est écrasé sur un quartier résidentiel de la ville. 242 personnes à bord, indiennes pour la plupart, britanniques aussi. L'avion devait relier l'Inde au Royaume-Uni, l'aéroport de Gatwick où vous vous trouvez, Laura Kalmus, et parmi les passagers, le seul survivant à ce stade, il y a cet Anglais, un homme de 40 ans.
Oui, on pensait que tous les passagers à bord avaient péri et donc cette information est prise comme une petite lueur d'espoir. Le survivant est un Britannique d'origine indienne qui raconte dans la presse comment tout s'est passé très vite. Il a expliqué avoir entendu un grand bruit 30 secondes après le décollage et que lorsque l'avion s'est écrasé, il a ouvert les yeux, il a vu beaucoup de corps autour de lui. Il est ensuite parti en courant. Et ici, à l'aéroport de Gatwick, beaucoup de journalistes sont venus pour tenter d'en savoir un peu plus sur l'enquête d'une part, mais aussi sur le profil de ses passagers, notamment un couple britannique qui, quelques instants avant de monter à bord du Boeing 787, a partagé sur les réseaux sociaux une vidéo. Le couple explique que leur voyage spirituel en Inde avait été magique. L'avion devait atterrir ici à 18h25, heure locale. Une cellule de soutien psychologique a été mise en place à l'aéroport, d'autant plus que les liens entre les deux pays sont très forts. De nombreux Britanniques d'origine indienne voyagent régulièrement entre le Royaume-Uni et l'Inde, ce qui rend cette tragédie particulièrement suivie ici.
Laura Kalmus, depuis l'aéroport de Gatwick, des enquêteurs britanniques et américains font route vers l'Inde pour enquêter sur le crash, tragédie nationale. S'émeut le Premier ministre indien, cela nous brise le cœur au-delà des mots, d'autant que le crash a fait des victimes aussi dans les immeubles que l'avion a percuté. Le bilan à 7 heures fait état d'au moins 290 morts. En Espagne, nouveau coup dur pour le Premier ministre Pedro Sanchez, le numéro 3 de son parti socialiste, mis en cause dans une affaire de corruption qui empoisonne le gouvernement depuis des mois, démissionne. Le chef du gouvernement a immédiatement réagi en disant qu'il n'aurait pas dû lui faire confiance, assurant que lui ne savait rien, demandant pardon aux Espagnols. Il exclut toutefois toute élection anticipée. L'actualité internationale qui nous ramène aussi à Gaza ce soir, l'enclave bombardée, affamée et plus que jamais coupée du monde. À cause de cette attaque sur la dernière ligne de réseau de téléphonie du territoire, ce que dénonce le ministère en charge qui dépend de l'autorité palestinienne, c'est la correspondance depuis Ramallah d'Alice Moreno.
Plus un seul message, plus un seul appel. Le petit territoire de Gaza ne peut plus donner de nouvelles au monde extérieur. Les ONG sont en état d'alerte. Le Croissant-Rouge, l'UNRWA, n'ont plus de contact avec les membres de leur personnel sur place. Mardi déjà, le nord de la bande de Gaza et Gazaville ont vu leur accès à Internet et aux télécommunications coupés. Et ces dernières heures, c'est le centre et le sud du territoire qui ont également perdu le contact avec l'extérieur. Une attaque d'Israël sur la dernière ligne principale de fibre optique a causé cette coupure géante, selon le ministère palestinien des télécommunications. Le ministère ajoute que ses équipes de maintenance ne peuvent pas accéder aux câbles endommagés pour des raisons de sécurité et précise que les autorités israéliennes ont empêché les réparations sur les lignes de télécommunications à Gaza depuis maintenant des mois.
Correspondant signaliste Moreno, 6 passagers de la flottille pour Gaza, dont l'eurodéputé Rima Hassan, sont par ailleurs désormais dans un avion en partance d'Israël. Et nous sommes en Irlande du Nord ce soir, où la police se prépare à d'éventuelles nouvelles violences. La nuit prochaine, ce serait la 4e nuit d'émeute à relents racistes depuis l'inculpation de 2 adolescents lundi, accusés de tentative de viol sur une jeune fille. 9 policiers ont été blessés hier, une 40aine depuis lundi. Les appels au calme se multiplient depuis que la colère a explosé dans la rue. Clémence Pénard a pu se rendre sur place.
Dans le quartier populaire de Clonavon, 3 nuits de violence ont laissé des traces. Fenêtres brisées, portes barricadées et visages fatigués. Karen, originaire des Philippines, finit par nous ouvrir discrètement.
C'était terrifiant. Ils ont lancé des pierres à ma fenêtre et ils ont voulu entrer chez moi. Et s'ils étaient arrivés, qu'est-ce qu'ils m'auraient fait ?
Mary, elle, est indienne. En 16 ans, passée à Ballymena, elle n'a jamais rien vu de tel.
Ils t'attaquent selon ta couleur de peau, c'est aussi simple que ça. Hier, j'ai prié le Seigneur pour qu'il me protège et je choisis de lui faire confiance.
En plus de prier, Mary, comme beaucoup d'autres, a aussi accroché un drapeau britannique à sa porte dans l'espoir d'échapper aux attaques cette nuit.
Je sais, ces émeutes, c'est pas bien, mais j'espère que ça montre qu'il est temps pour nous de nous lever. On ne peut pas rester les bras croisés pendant que nos enfants sont abusés sexuellement au coin de la rue.
Pour Anne, en revanche, qui a toujours habité ici, ces violences seraient nécessaires.
Et ce n'est pas seulement les Roumains qui posent problème, c'est tous les immigrés armée illégaux. Le gouvernement doit enfin ouvrir les yeux sur ce qu'il fait au pays. Donc quelque part, on peut dire que tout ça sert à quelque chose.
En vue d'une quatrième nuit d'émeute, des renforts policiers venus du reste du Royaume-Uni ont été mobilisés.
Reportage Clémence Pénard à Ballymena, ville située à une heure de route de Belfast. Nouvelle escalade de tensions entre l'Iran et les États-Unis. Téhéran qui annonce vouloir construire un nouveau site d'enrichissement d'uranium.
Remise en liberté générale pour les indépendantistes kanaks.
5 militants détenus depuis un an en métropole, à 17 000 km de chez eux, dont le leader Christian Théin, devenu entre-temps le patron du FLNKS, le groupe des partis indépendantistes. La justice les soupçonne d'être derrière les émeutes qui ont fait 14 morts et plus de 2 milliards d'euros de dégâts l'an dernier en Nouvelle-Calédonie, alors qu'une partie de l'île était mobilisée contre une réforme électorale. Dossier passé de Nouméa à Paris, où les nouveaux juges d'instruction ont réclamé il y a 10 jours leur remise en liberté, ordonnée aujourd'hui, malgré donc l'appel du parquet. Enfin, réagit François Roux, l'avocat de 4 d'entre eux.
Ce dossier vient de rentrer dans l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, dans l'histoire de la décolonisation de la Nouvelle-Calédonie. Et je ne peux que me réjouir que, enfin, des juges aient compris le fond du dossier. La CCAT avait organisé de très grandes manifestations en Nouvelle-Calédonie, comme il n'y en avait jamais eu, pour protester contre le projet de M. Macron de dégeler le corps électoral. La suite, ce ne sont pas eux qui sont responsables. Nous disons ça depuis un an. Enfin, nous venons d'être entendus. C'est vrai que c'est un peu réconfortant.
L'avocat François Roux à la sortie de l'audience et à votre micro tout à l'heure. Bonsoir Delphine Evenou.
Bonsoir.
Comment expliquer cette décision ?
On n'a pas encore les motivations écrites de la Chambre de l'instruction, mais la décision a été rapide. Moins de 10 minutes pour délibérer à l'issue d'une audience publique. C'est assez rare pour le souligner. Sur la forme, les 5 militants présentent les garanties pour le contrôle judiciaire, coopèrent avec la justice, ont trouvé un logement ici, en métropole, un emploi pour certains. Sur le fond, les avocats ont souligné que la détention provisoire était aujourd'hui incompréhensible. Des milliers de pages de procédures, des centaines d'écoutes téléphoniques et pas de preuves formelles d'appel à la violence ont-ils plaidé. En visio ou à la barre, les 5 Kanaks ont rappelé que leurs convictions et engagements politiques ne faisaient pas d'eux des organisateurs d'émeutes. Les avocats de Christian Théin espèrent que leur client pourra participer aux nouvelles discussions politiques sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie qui doivent commencer dans un mois à l'Élysée. Les 5 militants vont sortir de prison ce soir.
Merci beaucoup pour ces explications, Delphine Evenou. C'était une mesure très attendue des familles monoparentales, promise depuis 3 ans. L'extension du complément libre choix du mode de garde entrera en vigueur au 1er septembre prochain, jusqu'aux 12 ans de l'enfant de parents isolés, et non plus 6 comme aujourd'hui. Un complément qui compte beaucoup pour cette mère d'un garçon de 10 ans, célibataire au RSA, Gaëlle, au téléphone de Luc Chemla.
Il était attendu comme le Messie, et que la loi a été votée fin 2022. En attendant, la précarité de nos familles a augmenté, la mienne aussi. Sans ce CMG, clairement, je ne peux me projeter sur un travail à temps complet. J'ai même dû renoncer à plusieurs travaux à cause de ça, parce que j'avais pas de mode de garde. Ça représente un coût, si on prend un emploi à temps complet, par exemple, il faut compter du 800 euros par mois. C'est énorme. Je vis en territoire rural. Nous, le carburant ici, tout, c'est énorme. Ça représente un coût de 400 euros par mois, rien que pour le carburant. On est le 12 juillet, j'ai plus rien. J'ai tout payé. Heureusement, j'ai un bon rapport avec mon banquier, ça n'a pas toujours été le cas. Mais oui, c'est de la survie au quotidien. C'est comme gérer une PME sans ressources, en fait.
Le témoignage de Gaëlle au téléphone de Luc Chemla. En cas de résidence alternée, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire, le montant à proportion du moment où il a l'enfant. Cette partie de la mesure rentrera en vigueur à partir du 1er décembre prochain. Quant aux réseaux sociaux, autre grand sujet pour les familles, le gouvernement se donne 3 mois pour réussir à faire appliquer la majorité numérique à 15 ans, tandis que TikTok est sous le feu des questions des députés aujourd'hui. Commission d'enquête chargée d'évaluer les effets psychologiques de la plateforme sur les mineurs. Échange tendu tout à l'heure sur la vérification de l'âge des utilisateurs entre l'une des responsables de TikTok, Marie Hugon, et le président de la commission, le socialiste Arthur Delaporte.
Il n'y a pas d'obligation pour les plateformes encore de vérification de l'âge. C'est une proposition technique très intéressante. Il y en a d'autres, il y a aussi la vérification au niveau des magasins d'applications. Et en fait, il faut tous qu'on travaille dessus.
Oui, mais c'est pas ma question. Ma question, c'est Aujourd'hui, vous avez une solution. Vous avez décidé d'utiliser cette solution de contrôle a posteriori. Pourquoi ne pas l'utiliser a priori ?
Écoutez, c'est un sujet de discussion interne, enfin de discussion européenne. Et je pense qu'il faut qu'on le fasse collectivement, que toutes les plateformes arrivent à une forme de standardisation.
Échange suivi par Xavier Demani, TikTok, qui ne vérifie l'âge de ses utilisateurs qu'au cours donc de l'utilisation de l'application, affirme par ailleurs avoir supprimé plus de 640 000 comptes d'enfants de moins de 13 ans en 2024. On ne sait pas encore si les réseaux ont eu un rôle et lequel dans le passage à l'acte du collégien qui a tué Mélanie, l'une de ses surveillantes, dans son collège de Nogent en Haute-Marne. Tous les établissements scolaires ont respecté une minute de silence. Aujourd'hui, la garde à vue du garçon a été levée. Le parquet requiert une mise en examen pour meurtre. Et puis cette information de dernière minute, la taxe Zucma ne passe pas le Sénat. Impôt minimal de 2% sur les patrimoines de plus de 100 millions d'euros qui était censé rapporter entre 15 et 25 milliards d'euros par an. Taxe rejetée tout à l'heure par le Sénat.
Plus de 1300 archéologues rassemblés à Paris.
Une mobilisation rare d'une profession, elle aussi inquiète du projet de loi de simplification qui arrive demain à l'Assemblée. Un texte qui fait la chasse aux doublons, à la paperasse, aux procédures, quitte à faire une croix sur les diagnostics et les fouilles archéologiques en amont des chantiers, pourtant essentielles aux yeux des archéologues, rencontrés tout à l'heure par Gabin Boquet.
Casque de chantier sur la tête dans les rues de Paris, les archéologues s'inquiètent de voir leur profession menacée avec ce projet de diminuer drastiquement les fouilles préventives. 90% des fouilles effectuées en France, utiles pour savoir si des vestiges se cachent dans le sol avant d'entamer les chantiers. Camille Colonna est archéologue en Île-de-France depuis 20 ans.
Cette loi, c'est n'importe quoi ! Cette loi, elle va supprimer l'archéologie préventive si elle passe correctement. C'est vraiment très 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 dangereux parce que ça veut dire que n'importe quelle politique pourra décider d'outrepasser les lois du patrimoine, de faire des chantiers sans passer par l'archéologie. Et sans fouilles archéologiques, on ne connaît pas notre histoire.
Ces dispositions s'inscrivent dans la lignée des coupes budgétaires que connaît la profession, moins 30% depuis le début de l'année. L'archéologue Corinne Charamon, co-secrétaire générale du syndicat SNAC FSU, se sent méprisée.
On essaye de faire taire les archéologues et de les empêcher de creuser des trous pour faire des trous, comme dirait Rachida Dati. On a des réductions budgétaires qui sont drastiques, préoccupantes, inquiétantes, voire criminelles pour notre discipline. On est en train de sacrifier le passé et de condamner l'avenir.
Une délégation d'archéologues sera reçue au cabinet de la ministre de la Culture demain matin à 9h, à la veille des journées européennes de l'archéologie programmées ce week-end.
Reportage Gabin Boquet. Tandis qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est une épave chargée d'histoire qui vient d'être découverte et formellement authentifiée. Celle d'un chalutier de pêche, le Ravenel, disparu dans un naufrage il y a 63 ans. 15 pêcheurs étaient à bord. Ça a évidemment remuer l'île et ses 5000 habitants. Bonsoir Estelle Romer.
Bonsoir.
Cette découverte, c'est la fin de décennies d'incertitude et de tristesse.
Oui, notamment pour André Autin, un pêcheur. Il avait 19 ans à l'époque, c'était en 1962. Il aurait dû accompagner son frère à bord du chalutier.
Moi, oui, j'avais échangé avec un autre camarade qui était sur un autre bateau. Comme quoi, la vie, des fois, c'est le destin. C'est vrai qu'après 63 ans d'attente, ayant perdu mon frère également à bord, ça me touche, je suis très très touché aujourd'hui. J'avais toujours dit, il faut aller voir là, mais non, j'ai pas été quitté.
Le navire a été retrouvé à 1 heure de la côte. C'est Bertrand Cibot, spécialiste des épaves, qui a envoyé un robot sous-marin pour l'identifier. Il a été surpris par les images.
C'est vraiment quelque chose de très bizarre parce que c'est une épave qui est en parfait état en fait. C'est comme si c'était un bateau qui était posé sur le fond. Cela vient de la profondeur puisqu'on est à 120 mètres de profondeur et aussi de la température de l'eau qui est très froide à cet endroit-là puisqu'il fait moins 2 degrés au fond.
Dans cet état, pas de doute, c'est bien le Ravenel. Son immatriculation et sa cloche très spécifique l'attestent.
C'est toujours magique comme moment lorsqu'on trouve une épave, lorsqu'on trouve ce que l'on cherche, si vous voulez. En plus de ça, c'est beaucoup d'émotions puisque c'est comme s'approcher d'une tombe et d'un élément mémoriel sensible.
Les causes du naufrage restent floues, probablement les conditions météo extrêmes à l'époque. Les proches des 15 marins disparus demandent à ce qu'on laisse l'épave et ses âmes au fond de la mer.
Merci beaucoup Estelle Romer. Déjà triple championne olympique et toujours aussi inarrêtable
regrettable. La nageuse canadienne Summer McIntosh. Bonsoir Jean-Pierre Blimeau.
Bonsoir.
L'exploit vaut bien qu'on s'y arrête. Elle vient de battre 3 records du monde en seulement 5 jours.
Alors vous connaissez Léon Marchand. Summer McIntosh est en quelque sorte la version féminine actuelle. Le genre de sportif qui marque une génération. Elle a donc brillé à Paris avec ses 3 médailles d'or. Elle est en train de préparer les Jeux de Los Angeles 2028. Et comment ? Sans attendre les prochains mondiaux qui auront lieu cet été à Singapour. Chez elle au Canada, elle a battu en 5 jours 3 records du monde. Samedi, celui du 400 mètres nage libre. Dimanche, le 200 mètres quatre-nage. Et cette nuit, le 400 mètres quatre-nage. Des records établis lors des championnats du Canada. La précocité de cette jeune nageuse avait déjà marqué la natation en 2022 lorsqu'elle a gagné son premier titre de championne du monde. À peine âgée de 15 ans, à 14 ans, elle s'était d'ailleurs déjà essayée aux Jeux de Tokyo. Alors la Canadienne connaît la France puisqu'elle y a effectué un stage au début de l'année à Font-Romeu avec des entraîneurs français. Et elle va surtout bientôt côtoyer Léon Marchand, car elle va s'entraîner aux États-Unis avec Bob Bowman, qui travaille déjà avec le Français et qui est l'ancien entraîneur de Michael Phelps, le nageur aux 23 médailles d'or olympiques.
Une nageuse qu'on va continuer à suivre. Merci Jean-Pierre Blimeau. Elle a toujours la cote. Dorothée, toute une génération a grandi avec elle. Alors à peine la billetterie a-t-elle ouverte ce midi pour son retour sur scène. Une date unique l'année prochaine, le 4 avril 2026 au Palais des Congrès à Paris. À peine la billetterie ouverte, je vous laisse deviner. Tout est déjà complet.
Oh, c'est dingue. Je me demande ce qu'elle a mis dans sa valise.
Ah, mais tout le monde là autour de la table, bien c'est ça sûr. Qui est génial. Allez, merci beaucoup Hélène. À demain, dans un instant, c'est le téléphone sonne. On va parler de drogue en entreprise et de son augmentation totalement exponentielle. Un œil sur le ciel d'abord.
La météo avec TGV Inouï. Trouvez votre coin de ciel bleu dans une de nos 200 destinations en France et vers l'Europe.
Élodie Callac, demain ce sera la journée la plus chaude de l'épisode de chaleur.
Oui, alors le matin 13 à 16 degrés sur le nord-ouest, mais souvent 16 à 20 ailleurs. Et puis l'après-midi 36 degrés attendus à Grenoble, 35 à Metz, Dijon, Bourges et Limoges, 32 à Bordeaux, Toulouse, Marseille. Il fera 31 degrés à Lille, à Paris, 27 au Havre et à Rennes, on respire mieux, et 22 à Brest.
Et attention aux orages.
Oui, alors beaucoup de soleil pour commencer la journée, parfois un petit peu voilé. Des nuages bas tout de même sur le Languedoc-Roussillon le matin, poussés par le vent de sud-est. Sur la Vendée et la Bretagne, déjà quelques averses possibles, voire un orage, et puis ça se gâtera nettement entre l'après-midi, la soirée et la nuit. Le ciel deviendra menaçant de la Bretagne et des Pays de la Loire vers la Normandie, le bassin parisien et les Hauts-de-France, avec des orages potentiellement forts, des pluies intenses, de la grêle, de fortes rafales de vent. Et on a d'autres orages aussi qui remonteront sur le sud-ouest en soirée avec de fortes pluies, de la grêle et des bourrasques.
Merci beaucoup Élodie Callac de Météo France.
Ce samedi sur Inter.
C'est quoi la programmation ?
La radio de...
Yamé, tout simplement. Et je fais ce que je veux, les gars.
Pendant une heure, les artistes partagent la playlist de leur vie.
Des chansons qui m'ont fait grandir, des musiciens qui m'ont influencé. Un art, ça ne se pratique pas juste, ça s'apprend, ça s'explore, ça se maîtrise.
La radio de...
La radio de Yamé.
C'est ce samedi sur Inter, à partir de 21h. Mercedes-Benz.
Il vous faut quoi pour passer à l'électrique ? Une grande autonomie, un SUV compact ou un SUV 7 places ? Un loyer attractif ? Et pourquoi pas une Mercedes ? Jusqu'au 30 juin pendant les Star Days, profitez de l'EQA et de l'EQB 100% électrique avec le pack AMG Line des 399€ par mois.
Location longue durée 37 mois, 45 000 km. Premier loyer de 399€, bonus écologique de 2000€ déduit si acceptation par Mercedes-Benz Financement. Détails sur mercedes-benz.fr. Star Days, journée étoilée. Au quotidien, prenez les transports en commun.
France Inter, partenaire de l'exposition Le Mystère Cléopâtre à l'Institut du Monde Arabe. Depuis sa mort tragique il y a plus de 2000 ans, Cléopâtre ne cesse d'éblouir le monde. Un personnage fascinant dont se sont nourris littérature, peinture, sculpture, théâtre, cinéma, un mythe. 250 œuvres d'art exceptionnelles, issues de grandes collections internationales, plongent le visiteur au cœur de l'une des plus étranges énigmes de l'histoire, de l'Égypte antique à nos jours. Le Mystère Cléopâtre jusqu'au 11 janvier à l'Institut du Monde Arabe.
Et il est 19h23.
France Inter, le 18-20. Fabienne Synthès.
La caricature, hein, l'époque aussi, c'est Frédéric Bédé qui l'a déjà décrite. Dans 99 francs, c'est dire comme ça date pas d'hier, ce monde parisien de la pub où la coke circulait sur des plateaux. Il y a aussi eu cette image des années 90 à la télé où tout le monde passait par la case ligne de coke pour aller bosser, pour faire la fête le jour, la nuit. Enlevez-vous ces images de la tête. Imaginez plutôt le restaurant où les horaires sont décalés, très extensibles aussi, et c'est épuisant. Imaginez n'importe quel milieu, n'importe quelle boîte, avec un rapport à rendre, il est 2h du matin, c'est pas fini.
Balkany et le rapport, c'était pour hier. Imaginez l'Assemblée nationale, des quatre députés addicts à la drogue, la poudre ou les cachetons de synthèse, il y en a eu. C'est pas forcément facile à avouer, mais tout ce que je décris là, c'est peut-être vous ou l'un de vos collègues de travail. La drogue est entrée dans l'entreprise, c'est pas une nouveauté, l'alcool est entré dans le monde du travail, c'est pas neuf non plus, mais l'augmentation ces 8 dernières années est assez dingue. Plus 107%, c'est ce que dit une étude Paris Aujourd'hui dont on va parler. Des chiffres obtenus grâce au dépistage de 110 000 personnes, donc dans des entreprises qui dépistent, ça veut dire qu'elles sont déjà alertées sur les conduites à risque. Qu'est-ce que ça dit du monde du travail quand on a besoin d'un booster chimique pour tenir? On ne parle même pas des moments festifs, on parle des cadences, on parle du rythme, on parle de la pression, on parle de tenir le coup, on parle de ne pas décrocher. On parle aussi d'une banalisation, d'un accès tellement simple, il suffit d'un SMS ou d'un message WhatsApp pour voir débouler la marchandise. On verra ensemble s'il faut dépister, prévenir de manière bien plus significative, si c'est plutôt le travail qu'il faut dépister plus que ses conséquences. Et puis surtout, vous allez nous raconter, nous, ce que vous savez, ce que vous voyez, ce que vous consommez peut-être aussi, et pourquoi, vous qui êtes salarié, chef d'entreprise indépendant ou pourquoi pas député, c'est le téléphone sonne, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Bon, le député, j'y crois qu'à moitié, mais allez savoir. Le premier en attendant, Raoul, c'est vous, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Oui. Non, moi je suis extrêmement triste, je travaille dans le milieu du spectacle depuis plus de 35 ans. Bon, j'ai connu les années télévision, comme vous avez dit, ouais. Canal, avec des, voilà, de la coke qui était un peu partout. Donc quand on est jeune, on rigole, on trouve ça festif, et puis on tient le coup, on a la santé. Mais 35 ans après, le regard que j'ai là-dessus est très triste, parce que là, je viens d'accompagner un copain qui était en hôpital psychiatrique et en cure de désintoxication, qui est un beau mec, costaud, puissant, j'aurais jamais imaginé. Et avec toutes les doses qu'il s'est envoyées, la tête a flanché, quoi. Mmh. Et ça fait des années qu'il se perd là-dedans. Après c'est assez grave parce que voilà, moi je suis à être choisi et à choisir des équipes avec lesquelles je travaille dans le cinéma ou ailleurs qui ne prennent pas de coke. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a des équipes entières, et par contre je vais aller à contre-pied de ce que vous venez de dire, c'est pas que pour tenir le coup, certains c'est vraiment festif, et franchement ils tiennent pas bien le coup, hein. Au bout d'un mois de boulot, ils sont pas beaux à voir. Donc c'est pas génial, c'est triste, il y a beaucoup de gens qui s'abîment, et c'est très...
Mais ce qui est fou, Raoul, c'est qu'en plus vous êtes dans un milieu où, pardon de le dire comme ça, c'est un peu caricatural, mais c'est pas complètement incongru, j'allais dire. Enfin, vous voyez, on peut s'attendre à ce genre de choses. Donc ça veut dire que ça se sait, et ça veut dire que ça circule. Ça veut dire qu'il n'y a jamais personne, au fond, ou à de très rares exceptions près, pour taper sur l'épaule de ceux qui sont cocaïnés en lui disant « tu vas dans le mur ».
On essaye, en montrant autre chose, mais on passe pour un rabat-joie, et on passe pour un connard, ou pour quelqu'un qui veut vous empêcher d'être heureux, de faire la fête. Vous savez, quand vous partez 3 mois, 4 mois sur un tournage, et que tous les soirs c'est la fête, on dort ensemble, on vit dans des logements, etc., c'est sympa. Donc il y a ce côté festif qui fait que... Malheureusement, voilà. Mais il y a beaucoup de gens que j'aime dans ce métier, et du coup, ça me rend vraiment triste, parce que j'ai beaucoup d'amis que j'ai perdus, parce qu'ils ils travaillent.
Ah bon,
qui consomment.
J'ai eu peur. Voilà. J'ai cru quand vous avez perdu, mais on a entendu la fin de votre... Non. On a entendu ce que vous nous dites. Merci beaucoup, merci de cette entrée en matière pour discuter ensemble jusqu'à 20h. Il y a Jean-Jacques Cadeau qui est là, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le président fondateur d'Itilo, l'entreprise de prévention et de dépistage en entreprise. C'est votre étude, votre analyse de la consommation de la drogue et de l'alcool, d'ailleurs aussi en entreprise, qui nous a donné matière à cette émission. Il y a Jean-Claude Delgène, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le président fondateur du cabinet Technologia, vous êtes expert du monde du travail. Votre premier livre qui avait été coécrit avec Christophe Rogier, si je ne me trompe pas, s'appelait « Drogue et addiction au travail, comment les prévenir ?» aux éditions Fauve à l'époque. Et il y a Alexis Péchard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes addictologue, fondateur de GAE Conseil, cabinet spécialisé dans la prévention des conduites addictives au travail. Je commence avec vous, Jean-Jacques Cadeau. Est-ce que vous reconnaissez Raoul, au fond, et ce qu'il nous raconte dans ce que vous avez sorti aussi de votre étude ?
Mais, tout d'abord, merci beaucoup de m'inviter pour échanger à ce sujet. Il y a des propos qui m'ont interpellé dans son témoignage, qui est très juste. Il a parlé de personnes qui partaient ensemble pendant plusieurs mois, et en fait il y a un type de consommation que l'on sait assez avéré. Les personnes par exemple qui sont en grand déplacement, donc qui vont partir ensemble pendant plusieurs jours, ce sont des modes de travail qui sont aussi qui sont propices à des consommations de groupe. Et de fait, on observe...
C'est vrai que vous dites que c'est contagieux, en fait, si votre voisin prend un rail pour dire de la coke, et puis l'autre, etc. Au gros, si vous le faites pas, c'est un peu ce que disait Raoul, vous êtes le rabat-joie du coin, quoi.
C'est malheureusement, alors, on n'est pas là pour observer l'envers du décor, mais c'est tout à fait ça. Nous, ça nous arrive de dépister sur des équipes de nuit, par exemple. Récemment, on a dépisté un chantier, 24 personnes, 8 positifs à la cocaïne. L'une des personnes positives nous a dit, bah oui, il y a un collègue qui a ramené ça, on a tous tapé dedans, en fait.
Donc, vous dites chantier, je disais tout à l'heure qu'il y avait plein de métiers qui étaient concernés, on a parlé de la restauration, on y viendra probablement, enfin moi j'ai découvert qu'il y avait des pêcheurs qui prenaient aussi des trucs pour tenir, même des gens qui font du bateau de plaisance, enfin qui emmènent des touristes, enfin j'ai été scotché par l'éventail, en fait, des endroits où on trouve la drogue.
Ça reste, alors, ce sera plus au l'addictologue après de Monsieur Péchard de commenter, mais le comment dire, oui, les cohortes constantes de Santé publique France ont montré que ça reste un sujet assez transverse à la société, qui touche beaucoup de catégories socioprofessionnelles, et récemment il y a eu encore une étude du service de santé vous évoquiez les marins pêcheurs, il y a eu des reportages très récemment sur une vraie banalisation des consommations chez les marins-pêcheurs.
C'est fou, hein, chez les marins-pêcheurs, quand même. Alexis Péchard, quand j'entends à la fois ce que nous dit Jean-Jacques Cadeau et ce que nous disait notre auditeur aussi, cette espèce d'effet d'entraînement, on sait qu'il existe sur l'alcool, on en a fait aussi 1000 émissions. Et c'est fou de se dire quand même que ça existe aussi sur la drogue, qu'on parle de coke, qu'on parle de médicaments, de drogue de synthèse, etc. Ça parle aussi de la banalisation, en fait. Ouais. Quand votre voisin le fait, vous dit « vas-y, tu devrais essayer », et qu'on trouve ça normal d'essayer.
Effectivement, aujourd'hui, on constate vraiment ce phénomène de banalisation qui est très fort. Alors, sur la question de la cocaïne, bien sûr, le cannabis également, bien on n'en a pas encore parlé. Mm-hmm. Vous évoquiez la question des nouveaux produits de synthèse. Il y a plus de 450 produits aujourd'hui, qui sont malheureusement accessibles et dont on parle de plus en plus, qui sont aussi extrêmement accessibles. C'était rappelé tout à l'heure en matière de disponibilité,
bien
d'accessibilité.
Il suffit d'un SMS, savoir où l'envoyer.
Disponibilité. Donc, ça, c'est une réalité. La question de l'entraînement par les autres est l'une des raisons, effectivement, dans le milieu professionnel pour lesquelles on est amené, effectivement, à consommer. Et la question des grands déplacements, c'est des choses que nous, on constate et qui nous sont remontées, effectivement, par des entreprises qui ont ce type de pratique professionnelle.
Après, Jean-Claude Delgène, vous qui avez vraiment travaillé sur cette question également, on a bien compris que qu'on découvrait pas la Lune non plus. Enfin, vous voyez, on tombe pas de notre chaise. Là où on tombe de notre chaise, c'est sur le côté exponentiel. Qu'est-ce qu'il dit ce côté exponentiel, et puis surtout, est-ce que c'est que le fait que c'est facile à se procurer? Enfin, ce serait tellement trop simple si c'était simplement la manière de s'en procurer.
Alors, il faut souligner l'étude qui est très intéressante parce qu'elle donne des chiffres. Et nous, on a beaucoup travaillé à technologie avec les équipes sur des situations concrètes, mais on n'avait pas une vision générale. Et ça, c'est très intéressant, l'étude qui est sortie. Alors, ce qu'on constate, c'est trois choses, en fait. Il y a premièrement un phénomène d'importation, c'est-à-dire des gens qui, en fait, de manière ludique, utilise et importe dans l'entreprise. Le deuxième constat, ce sont des individus qui sont, en fait, qui sont confrontés à l'usage et qui vont souvent par contagion plonger. Et puis la troisième, c'est ce que vous avez dit en entrée, c'est-à-dire le fait que aujourd'hui le culte de la performance, le culte de la recherche absolue de l'efficacité oblige les individus pour s'adapter à utiliser, je dirais, des boosters, en fait, chimiques, avec tout ce que ça a comme conséquence. Et moi je le dis tout de suite aux auditeurs, attention, parce que la drogue est c'est un usurier. Il vous rend un petit service au départ, mais il vous le fait payer très cher après. tant en termes de maladies psychiques, en termes de santé, même y compris en termes professionnels, parce que de plus en plus, malgré tout, on voit qu'il y a des sanctions qui sont en fait la fin de la carrière, le licenciement. Mmh. Et donc, il faut faire attention à ne pas se laisser aller et à maîtriser en fait, à contrôler sa consommation, à ne pas y compris s'exposer sur le plan professionnel.
Ah ben, vous m'étonnez, oui, j'allais dire maîtriser et même arrêter, c'est aussi bien sur une radio de service public. Voici Alinou qui est avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute.
Y a pas grand chose que je puisse rajouter. Raoul a déjà eu un très bon témoignage sur ça, mais on peut parler aussi des chauffeurs routiers. Mmh. On peut parler de sur les chantiers. En effet, j'ai entendu vos invités qui en parlaient. Et c'est un phénomène qui a été amplifié, je pense, depuis une quinzaine d'années. Vous parlez de 8 ans, mais je pense plutôt d'une quinzaine d'années, car j'ai vécu en Colombie. Et en Colombie, les personnes qui donc étaient appelées à utiliser les drogues de performance, hein, dont tout ce qui est coke essentiellement donc en Colombie, ils ont eu un problème. Au départ, les étudiants ne l'utilisaient pas. C'était une drogue qui était vouée à l'exportation. Et de par le pays entrant de plus en plus dans une économie vivace, les jeunes ont cherché à devenir plus performants et ils ont commencé aussi à avoir des problèmes de coke, alors qu'ils n'en avaient pas. Ils exportaient. C'est arrivé par les ports, et ben, c'est un grand marché, c'est arrivé par le nord, c'est arrivé par le sud. Je l'ai vu dans la jeunesse espagnole aussi, j'avais un bar en Espagne, et je voyais des gamins de 15-18 ans qui le soir, avant de partir en boîte, se faisaient des rails de coke sur mes glaces de mon bar. J'ai toujours essayé de leur en parler, leur disant, vous savez, ça va pas vous rendre plus intelligent, sur l'instant, vous avez l'impression d'être les maîtres du monde, mais quand vous allez rentrer demain, vous allez être mal, donc qu'est-ce qu'on fait? Ben, ils prennent des Dexomil, ils prennent d'autres substances pour calmer les angoisses que ça peut générer, parce que c'est la performance, ça use, oui. c'est comme si vous mettez de l'éther dans un moteur essence, hein, ça crame tout, et le pire, c'est que par la suite, y a une escalade, vous parlez de descente, moi je parle d'escalade, c'est-à-dire qu'il y a une escalade réellement, comme les drogues n'agissent plus vraiment sur la performance, on va chercher quelque chose de plus fort, on va chercher quelque chose plus de dose, plus, et on finit mal.
Merci beaucoup, Alinou, merci pour ce témoignage. Très rapidement, Alexis Béchard, effectivement, vous, avec votre casquette d'addictologue, plus on en prend, plus on en veut, et on finit toujours par passer à autre chose. Est-ce qu'à la fin, le corps s'habitue, en fait?
Effectivement, on parle d'accoutumance, hein, d'un point de vue purement physiologique. Ouais. Après, il y a la dépendance qui peut s'inscrire. La dépendance, elle est triple. Elle est psychique, d'abord, liée au produit, avec l'association que la consommation d'un produit va s'associer à une forme de récompense. Et pour se sentir bien, retrouver une forme d'équilibre, etc., seule la consommation va permettre de répondre à ce besoin. La dépendance, elle est également physique, purement, au produit. Le corps va réclamer, autrement, vous allez avoir des symptômes de manque, hein, qui sont très bien décrits. Et puis, vous avez une dépendance qui est sociale également. Hein. Donc, c'est vraiment l'ensemble de ce spectre-là qui est étudié quand on parle de dépendance.
Jean-Jacques Cadeau, vous parlez d'augmentation ces 7-8 dernières années. C'est parce que c'est le panel aussi que vous avez étudié, tout simplement. Tout le monde parle, et vous aussi, dans votre étude, d'une accélération depuis le Covid. Pourquoi une accélération depuis le Covid?
Alors, nous ne sommes pas sociologues pour pouvoir commenter et évaluer ce phénomène-là, mais voilà, il y a quand même cette temporalité, nous, qui nous a interrogé entre cette période pré-Covid et cette période post-Covid, où on a vraiment observé au global, hein, que ce soit sur l'alcool ou les stupéfiants, une hausse des consommations. Après, post-Covid, on a vraiment vu cette courbe, pour parler particulièrement de la cocaïne, s'accélérer de manière assez importante.
On sait répondre à cette question, Jean-Claude Delgène, sur le passage Covid ou pas?
Oui, en fait, ce qui s'est passé avec le Covid, c'est que on a eu une rupture des rythmes collectifs, c'est-à-dire que chaque individu est connecté à des rythmes sociaux. Et donc, cette rupture des rythmes collectifs a conduit un certain nombre de personnes à perdre leur routine, à être dans l'angoisse, dans l'anxiété. Ça, c'est la première chose. Et donc, on sait aujourd'hui que depuis Covid, on a une augmentation de 25% des dépressions en France. Vous voyez, donc c'est quand même pas rien, 25%. C'est une croissance très forte. Et deuxièmement, avec y compris l'émergence du télétravail, il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées isolées à devoir faire face à de la complexité. Et parfois de la complexité redoutable. Alors qu'auparavant, sur le lieu de travail en présentiel, on avait toujours un collègue pour aider, pour trouver une solution. Là, on s'est retrouvé dans des situations où les gens ont été jugés sur leur delivery, tout seuls dans leur maison, à ne pas savoir quoi faire. Et donc, ils se sont boostés très souvent, y compris en travaillant tard le soir. On a eu des burn-out numériques classiques, nous on les a constatés. Et très souvent, c'était avec... Il faut comprendre que les addictions sont vraiment liées au RPS.
Très, RPS.
Très aux risques psychosociaux. Okay. C'est très lié.
Peut-être aussi d'ailleurs que... alors c'est vrai qu'on parlait de banalisation tout à l'heure et de facilité, mais quand on est chez soi, pendant le Covid, c'est tellement plus facile, du coup personne ne le voit.
Absolument, il y a eu un effacement des frontières entre le privé et le public, vous avez raison de le noter.
On va revenir au standard, évidemment. Il y a autre chose qui m'intrigue beaucoup, Jean-Jacques Cadeau, c'est que donc vous avez vos chiffres, vous les sortez des entreprises qui dépistent. La question que je me pose d'abord, c'est si on dépiste de plus en plus ou au contraire, si on dépiste pas, parce que vous savez, la question que je me suis posée en préparant cette émission, je me suis dit, mince, je sais même pas si on dépiste ici. Enfin, vous voyez, je me suis même dit, je sais même pas si on a le droit, enfin, je sais même pas comment ça marche, en fait, réellement, une entreprise qui dépiste. Est-ce qu'on peut répondre à ça?
Alors, le dépistage, en fait, est autorisé à partir du moment où l'employeur va faire son évaluation des risques et va lister les postes dits hypersensibles qui peuvent être soumis à dépistage. En fait, l'employeur a une obligation de sécurité vis-à-vis de ses collaborateurs et à ce titre, doit assurer leur santé, leur sécurité.
Parce que dans le transport, je comprends pourquoi on dépiste dans la restauration, par exemple. On sait,
alors,
on sait dire ça.
Nous, on dépiste pas dans la restauration aujourd'hui.
D'accord, okay.
Voilà, c'est pas notre métier. Mais par contre, dans la restauration, on sait qu'il y a eu des chiffres de la part des cohortes Constance qui ont montré qu'il y a un vrai sujet aussi dans ce secteur-là.
Ça veut dire qu'on dépiste dans les endroits où il va y avoir un contact avec le public. Quand on parle des transports, évidemment, on va prendre le volant ou des choses comme ça. Alexis Péchard, est-ce que la solution, c'est de dépister plus, mais c'est aussi une manière de s'occuper du problème plutôt que d'aller à la source, et la source étant le problème du travail.
Je suis pro dépistage. Alors peut-être juste repréciser sur la question du dépistage alcool et drogue, il faut effectivement que ça soit pour ces raisons de sécurité de ça qui viennent d'être rappelées à l'instant par monsieur Cadeau, ça doit être prévu par le règlement intérieur. Déjà ça c'est le socle de base. Si ça n'est pas prévu au règlement intérieur, même s'il y a des postes à risque, le dépistage alcool et stupéfiant n'est pas possible. Donc le règlement intérieur reste d'un point de vue juridique le socle de base de ce point de vue-là. Donc effectivement, il y a des secteurs qui, par nature, le transport, mais effectivement, l'hôtellerie, café, restauration en fait partie. Hein, et dans ces secteurs-là, on retrouve aussi des postes à risque. Nous, c'est une des branches que l'on couvre au niveau du cabinet. On couvre aussi la branche du transport de voyageurs. Et effectivement, ce sont des branches, le BTP, ça a été rappelé, qui ont ces cultures de dépistage très fortes parce qu'il y a ces postes à risque. Sur la question de est-ce qu'il faut plus de dépistage ou pas, peut-être, mais je suis partisan de ne pas limiter, en tout cas, les politiques de prévention exclusivement à la question du dépistage, mais d'aller vraiment sur des politiques de prévention qui soit plus ambitieuse sur ce qu'on appelle les trois niveaux de prévention en matière de prévention primaire, secondaire et tertiaire, et en premier lieu sur la prévention primaire et d'interroger l'organisation du travail.
Exactement, et c'est là que veut nous emmener Géraldine. Bonsoir Géraldine.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
C'est plaisir d'entendre effectivement comment le débat évolue pour venir poser vraiment la question des raisons de cette situation. Voilà, moi j'ai réagi parce que je suis psychologue du travail et les personnes que j'accompagne qui sont souvent en grand épuisement, éventuellement qui souffrent d'addiction et qui tiennent en fait par des produits, je leur dis que Yves Clos depuis des années, qui est un ergonome, dit qu'il est temps de soigner le travail plutôt que de soigner des milliers de salariés.
Ouais.
Sauf que ça, ce qu'on essaye de prêcher depuis des dizaines d'années dans notre métier, en fait, on a l'impression de prêcher dans le vide. Donc là, je me dis, si on est sous une sidération collective de cette explosion de situations d'addiction avec, en plus, voilà, de la drogue dure dans le monde du travail, peut-être qu'on va enfin collectivement prendre le problème à bras-le-corps et le problème pour soigner le travail. Alors bien sûr qu'il faut prendre en soin nos salariés qui souffrent, mais c'est vraiment regarder par le petit bout de la lorgnette. Je pense qu'il faut vraiment penser à soigner le travail.
Merci pour votre témoignage Géraldine. Je voudrais vous soumettre à tous deux messages sur WhatsApp. Il y a Mathieu qui dit « J'ai un travail très stressant où je dois parler devant un grand nombre de personnes, donc je prends un Xanax. Résultat, quand
j'ai beaucoup d'événements, je prends beaucoup de Xanax et c'est pas facile à vivre, c'est difficile à vivre, nous dit-il. Il y a Camille qui dit beaucoup des chirurgiens que j'ai côtoyés sont malheureusement sous drogue. 48 heures de garde, il faut être réaliste, personne ne peut tenir ça. Et en effet, on parle des chirurgiens, on parle des internes qui en plus ont la pression dessus parce que ce sont de très jeunes médecins qui évidemment ont la trouille de faire une bêtise. Elle a raison, Géraldine, soigner le travail, soigner les addictions, bien sûr, soigner le travail aussi, évidemment.
Oui, tout à fait. Je connais bien Yves Claude, c'est un ami, donc je partage totalement la question de la qualité du travail qui doit être améliorée et qu'on puisse se retrouver chacun dans cette réalisation. Le véritable problème en France, peut-être par rapport à d'autres pays, c'est la question du management qui est beaucoup trop centralisé, autoritaire et qui tombe d'en haut et qui, en fait, exige des performances sans véritablement discuter les objectifs, sans véritablement permettre à chacun de s'exprimer sur les objectifs qui se sont imposés et qui met, en fait, et qui met ce mode management un peu Louis XIVien, met les gens en rideau en fait, parce qu'il y a une course à la performance et donc à un moment donné, soit vous acceptez de courir, soit vous êtes, vous descendez du train, et quand vous avez 50 ans que vous descendez du train de l'emploi,
c'est mort.
C'est très compliqué de remonter dans le train. Et ça, c'est véritablement, moi je le vois dans les problématiques de syndrome d'épuisement professionnel qui est souvent lié à des addictions. Les gens, en fait, s'en remettent à ça parce qu'ils considèrent que pour éviter une déchéance sociale, ils ne peuvent pas faire autrement. Alors, ils ont tort, hein, parce que à terme, ça ne peut durer qu'un temps, mais de s'en remettre à ces pratiques.
Ce qui est central, c'est la question du sens au travail, en fait, hein, ce qu'il y a derrière.
Tout à fait.
Et oui, qu'on a largement évoqué déjà à plusieurs reprises ici, mais vous avez raison, à la fin, c'est toujours là que c'est. On y retourne. Jean-Jacques Cadeau, je me demandais, quand vous dépistez en entreprise, si vous trouvez, par exemple, qu'il y a. Vous avez l'impression qu'il y a un haut pourcentage, est-ce que. Qu'est-ce qu'on fait après? Est-ce que vous en parlez, y compris avec les patrons, avec le manager? Est-ce que vous lui dites alerte rouge, regardez ce qu'on a comme résultat? Est-ce qu'il tombe de sa chaise en règle générale? Comment ça se passe, en fait?
Alors, toute la suite après ne nous appartient pas, mais
à un moment, vous avez vos résultats, quoi. Donc
voilà, on essaie aussi d'être force de proposition.
Exactement,
quand même pour voilà. Le dépistage, voilà, reste un outil en entreprise pour essayer de prévenir les risques liés aux consommations. C'est un outil qui, à notre sens, permet d'aller pour une entreprise, une organisation, d'aller quantifier son niveau d'exposition à ce risque-là, d'obtenir des chiffres au niveau global, d'aller identifier des collaborateurs en difficulté et d'essayer ensuite de leur apporter une solution. C'est probablement sur cette dernière brique qu'il y a encore beaucoup à faire. À notre échelle, on a, nous, relancé une ligne d'écoute post-dépistage positif, une ligne d'écoute anonyme qui est gérée par nos infirmiers professionnels de santé pour que toute personne qui serait dépistée positive puisse en échanger librement avec un professionnel de santé pour essayer de commencer à interroger son rapport au produit. Voilà, essayer de l'amener un nouveau rapport et essayer de diminuer probablement ses consommations. C'est un outil. On voit que ça peut servir parfois d'électrochoc. On a de temps en temps des belles anecdotes, hein, quand on retourne sur des dépistages sur des sites sur lesquels on a pu dépister des personnes positives une première fois, souvent ces personnes-là viennent en tête de file et sont très fiers en fait de nous présenter un test qui va être négatif et de nous dire j'ai arrêté mes consommations, je me suis mis au sport, j'ai essayé de faire autre chose. Voilà, ça règle pas tout le dépistage, mais voilà, ça permet de mettre un chiffre sur quelque chose et d'essayer d'évoquer, d'aborder le sujet.
Et pour revenir au fond à la remarque de notre auditrice Géraldine, tout à l'heure, Jean-Claude Delgène, la question qu'on se pose dans ces cas-là, c'est de se demander si on est fier de montrer qu'on n'a plus rien dans le sang parce que le travail va mieux ou parce qu'on va mieux soi. Et si le travail va pas mieux, à un moment ou à un autre, de toute façon, le risque, il est de repartir.
Voilà, je pense que c'est très important. Il y a deux choses qui fonctionnent très bien dans ce cas-là. La première chose, c'est le débat au sein des instances de dialogue social. Quand on met en débat, par exemple, les indicateurs que vous sortez, il faut les mettre en débat au niveau des CSE, des comités socio-économiques. Faire en sorte que les représentants du personnel s'emparent de la question, y compris que les services de santé au travail s'emparent de la question. Et là, quand c'est systémique, quand tout le monde en parle, là, il y a un véritable élan interne qui va permettre de traiter les problèmes. Ça, c'est sur le plan de la prévention collective. La deuxième chose, c'est la prévention individuelle. Il faut éviter la mise en jugement. Si vous avez quelqu'un qui est, par exemple, concerné par une addiction et que vous lui dites « Ah, tu m'as foutu la honte, hier, etc., etc. Vous le jugez, et là, ça va le bloquer. Par contre, si vous lui dites, je sais que tu vas pas très bien, et je sais que tu as certaines pratiques, dis-le-moi pour que je ne sois pas, moi, dans des situations inconfortables. Là, vous ne le jugez pas. Donc, il faut développer ce qu'on appelle la communication bienveillante, et non pas le jugement qui est culpabilisant, stigmatisant, et qui conduit les gens, en fait, dans une impasse. Et donc, il y a tout un travail à faire pour armer, y compris le management, dans cette matière, pour vraiment sortir les gens de la difficulté.
Et j'imagine que c'est ce que vous voyez, vous aussi, Alexis Péchard. C'est pas l'addiction qui mène au burn-out, c'est le burn-out qui mène à l'addiction. Enfin, ça marche dans quel sens, en général?
Alors là, je ne sais pas répondre à cette question, j'en suis désolé.
C'est les deux sens.
Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est le burn-out qui fait qu'on se dit, je ne vais pas craquer, donc je vais tenir, donc je vais prendre un truc pour m'aider, et ensuite, on se perd là-dedans, quoi.
Je dirais même qu'au-delà de la question du burn-out, finalement, globalement, sur la question des troubles psy, finalement, en fait, l'un alimente l'autre, en fait. Vous voyez, c'est-à-dire qu'à un moment donné, souvent en médecine, on parle de comorbidité, c'est vraiment la notion de pathologie associée, pathologie duelle, dit autrement ou plus simplement. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que l'un entraîne l'autre. Alors, vous dire qu'est-ce qui est premier, voilà.
On va peut-être demander à Georges. Bonsoir, Georges.
Oui, bonsoir. Vous m'entendez bien?
Je vous entends parfaitement bien, on vous écoute.
Oui, merci. Je réagis pas forcément au prénom de Georges, car ce n'est pas mon vrai prénom.
Ah, pardon.
j'ai demandé à ne pas donner mon vrai prénom.
Je vous en prie, allez-y.
Moi, je réagis et j'adore ce qui se dit là. Je voudrais remercier Géraldine qui est intervenue, là, la psychologue du travail, qui a dit le terme « il faut soigner le travail ». Je voudrais remercier Jean-Jacques et Alexis. Voilà, moi je suis éducateur spécialisé, 20 ans que je travaille dans la protection de l'enfance. Je vais pas je vais être synthétique sur ce que je peux vivre au quotidien, dans ce que je vois et dans ce que je vis au niveau professionnel. Il y a 20 ans, le management était bienveillant dans la protection de l'enfance. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est-à-dire que on peut amener deux petites jeunes véridiques de 8 ans au commissariat pour parler de leur viol. Et puis, on rentre au bureau. Il y a 20 ans, eh bien, il y avait tout le monde qui nous attendait pour dire comment ça s'est passé, ça va, comment vas-tu. Maintenant, c'est allez hop, dossier suivant. Mmh. Voilà. Donc, c'est tout simplement, je fais partie, et ça a un lien aussi avec votre débat d'hier sur les violences des jeunes. Je suis dedans aussi en tant qu'éducateur spécialisé. Donc, moi, je suis travailleur social. J'ai fait un burn-out lié à mes souffrances au travail, notamment du fait du management brutal, de plus en plus brutal, qui ne prend pas en compte la santé, la santé des travailleurs qui aiment leur métier et qui font ça parce qu'ils l'aiment, comme les urgentistes, les gens qui bossent en EHPAD.
Du coup, vous dites que vous êtes tombé dans l'addiction après le burn-out, parce que je me posais vraiment la question, et je disais ça vraiment très sérieusement, le burn-out d'abord, l'addiction après, pour essayer d'éviter le burn-out, et c'est là que le cercle vicieux commence.
Alors, merci. Merci de me réorienter sur... je suis un peu pris d'émotion. Et ben c'est interdépendant. Mmh. Voilà. Je suis tombé tranquille. Et pourtant, j'ai travaillé en addictologie en tant qu'éducateur spécialisé. J'ai accompagné professionnellement des gens qui étaient tombés dans des addictions. Et je suis moi-même tombé dans une addiction à l'alcool. Non pas une addiction plutôt invisible et socialement admise à l'alcool. Non pas en grosse quantité, mais le petit coup d'alcool du soir pour se détendre, mais qui est devenu, avec l'accoutumance et l'habitude, quelque chose dont je ne pouvais plus me passer si je voulais tenir le coup dans mon travail. Et donc cette addiction a commencé à émerger en parallèle avec le durcissement de mes conditions de travail, qui ça aboutit à un burn-out. Mais burn-out, c'est plutôt un terme plutôt galvaudé. Moi, quand je vous parle de burn-out, je parle de dépression sévère liée au travail. C'est-à-dire que mon dernier jour de travail, avant mon arrêt de travail, c'est je voulais tourner à gauche, j'ai mis mon clignotant avec la voiture, mais c'est le lave-glace qui est sorti. J'étais délatéralisé. Donc c'est vraiment c'est grave.
Merci Georges, pardonnez-moi de vous interrompre pour qu'on puisse laisser nos invités débattre sur ce que vous venez de nous dire. Merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage. Il y a beaucoup de choses qu'on retient dans ce que nous dit Georges. D'abord, on le disait à l'instant, Alexis Péchard, mais effectivement, le burn-out d'abord, l'addiction derrière. Encore une fois, pour tenir, je trouve ça intéressant qu'ils nous disent qu'il y avait autrefois un management bienveillant. Les temps ont bien changé aujourd'hui. Encore une fois, c'est là aussi qu'il faut attraper les choses.
Non. Alors, oui, alors je suis tout à fait d'accord. Moi, je suis moins un expert du management, en tout cas. Mais oui, il y a un vrai...
Mais d'un phénomène de ce genre-là, comme vous en avez pu rencontrer alors, d'autres, j'imagine, de gens qui sont comme Georges et qui viennent vous voir avec,
dans la pratique, avec la même histoire, en quelque sorte. Sur le volet accompagnement, donc, parce qu'on fait de l'accompagnement de salariés en situation de dépendance, qui nous sont orientés par les services prévention, les services RH, les services de santé au travail. Effectivement, ce sont malheureusement... ces constats-là. Autre constat également sur lequel je souhaiterais quand même alerter, je pense que c'est le moment de le faire aussi, globalement on est appelé un petit peu en mode pompier, c'est-à-dire que c'est des situations sur lesquelles nous on est appelé, mais des situations qui perdurent
en fait.
C'est déjà
trop tard, vous voulez dire ?
En tout cas, alors c'est jamais trop tard, mais c'est des situations dont on a connaissance depuis 15 ans, 20 ans, 25 ans, et en fait qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il y a eu un élément déclencheur, il y a eu un petit peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et il y a eu le moment donné, parler de l'alcool finalement, il y a un peu une injonction paradoxale, c'est tout le monde doit consommer, mais si tu consommes pas, arrête-toi en fait, tu nous saoules. Mais consomme comme tout le monde. Si tu consommes trop, à un moment aussi, on va te mettre à l'écart. Voilà. Donc, c'est vraiment ça. Et finalement, dans l'entreprise, la personne dont tout le monde parle, c'est celle qui est dépendante. Mmh. Et on ne lui parle plus à elle directement, mais tout le monde en parle à la machine à café, vous voyez.
Et en même temps.
Et c'est à ce moment-là où, voilà.
Dans toutes les études que j'ai pu lire, il y a aussi Jean-Jacques Cadeau l'idée que quand l'alcool, effectivement, ça se voit. On a du mal à parler, on titube, etc. Enfin, parfois c'est compliqué. Il y a parfois un choix d'utiliser plutôt, si je puis dire, des médicaments, des choses comme ça, parce que précisément ça ne se voit pas. En fait, on a même l'impression d'être super en forme. Et c'est aussi l'image qu'on renvoie, en fait. Quand on renvoie une image d'alcool, on renvoie une autre image que le gars qui pète la forme, et sachant que tout le monde sait qu'il a pris un cacheton dans les toilettes, mais après tout, physiquement, il pète la forme, quoi. Donc il y a cette espèce de différence aussi dans ces différentes addictions, non, quand on est au travail.
Alors on dépiste moins nous les médicaments, les produits qu'on va dépister quand on réalise des dépistages, voilà, ça va être alcool, cannabis, cocaïne principalement, un petit peu d'opiacés, lié pour certains.
Un petit peu ou de plus en plus d'ailleurs.
Alors il y a un phénomène, mais alors qu'on peut encore qualifier de signal un petit peu faible, c'est quelque chose nous qui nous a interrogé sur nos pratiques de dépistage et qui nous amène à alerter un petit peu nos clients là-dessus, c'est un test quand on réalise un dépistage, quand il est réalisé sur la catégorie des opiacés, il peut être positif en fait lié à des médicaments. De plus en plus, on invite nos clients à systématiser une analyse de confirmation en laboratoire, de manière à être sûr qu'il s'agit bien de stupéfiants et pas de médicaments. Pourquoi on les a incités là-dessus? C'est parce que on s'était rendu compte qu'il y avait de plus en plus d'ordonnances de complaisance, d'ordonnances falsifiées, de choses comme ça, qui nous avaient un petit peu interpellés. Et en fait, à ce titre, en fait, voilà, on les a incités de plus en plus. Et du coup, entre 2022 et 2025, période avec laquelle systématiquement, on propose maintenant les analyses de confirmation avec ce laboratoire, on s'est rendu compte que sur 44 tests qui étaient partis au laboratoire pour analyse de confirmation, 19 étaient revenus positifs à l'héroïne. Donc un peu plus d'un tiers des dossiers qui partent pour ce qu'on pensait. Voilà, là où on pensait avoir peut-être 1 sur 10, 1 sur 20 qui étaient effectivement positifs à l'héroïne. Non, on a probablement une proportion beaucoup plus importante que cela.
Caroline nous dit ceci, mon fils de 20 ans travaille dans un restaurant gastronomique, son chef voulait qu'il travaille plus vite, et un jour il lui a dit, t'as qu'à prendre de la coke. Fermez les guillemets, et ça vous étonne pas une seconde, Jean-Claude Delgen, d'entendre.
Oui, moi j'ai eu un cas dernièrement qui était assez exemplaire, c'est un chef de service qui a réuni son équipe, qui leur a expliqué comment, en fait, pour débrider leur créativité, pour débrider leur cerveau, ils pouvaient acheter, en fait, du LSD en Hollande, en montrant le site, en montrant comment on pouvait procéder. Il a expliqué ses expériences, je dirais, personnelles, comment, en fait, y compris, on pouvait gérer les bad trips avec le Xanax dont vous parliez tout à l'heure, et comment, en fait, on pouvait travailler sur la durée sans pour autant, soi-disant, tomber dans l'addiction. Donc, c'est un chef de service qui fait ça, vous voyez, dans une entreprise qui est elle-même sous-traitante des plus grandes entreprises françaises. Vous voyez, donc on a une banalisation en fait là qui est assez inquiétante. Et il est intéressant, comme le disait tout à l'heure Alexis, de vraiment rappeler les règles en matière de prévention, d'informer, de les inscrire dans le règlement intérieur, de mobiliser les acteurs de la prévention que sont les élus du personnel, la médecine du travail, pour éviter d'en arriver là. Parce que quand vous êtes jeune, que vous tombez dans un service comme celui-là, qu'on vous incite à prendre, je dirais, de la coke ou autre chose, et que vous vous laissez embarquer, bah, vous le payez très
et
cher
vous
pour plus tard.
Vous craignez d'être viré, tout simplement, parce que sinon vous n'êtes pas au même rythme que les autres.
Tout à fait.
Vous avez ce genre de frayeur, c'est quand même terrible. Les drogues de synthèse, quand même, est-ce qu'on les voit arriver de plus en plus, Alexis Péchard, ou pas?
On est sur un phénomène qui est émergent, mais qui est extrêmement inquiétant.
Donc on n'est pas aux États-Unis,
en revanche, il faut être en alerte. C'est une réalité. Aujourd'hui, sur le dépistage,
on en observe
très peu. On ne peut pas nier, les chiffres sont là, effectivement, et on est sur un phénomène qui est extrêmement rapide, même si dans les chiffres, il est encore faible, il est extrêmement rapide en matière d'exponentialité.
On n'a pas le temps de prendre la question de Delphine, mais je vais la prendre dans ma voix. Delphine, pardon, j'ai quitté une entreprise, dit-elle, dans le BTP, parce que l'un de mes patrons était devenu alcoolique, pourtant à la base une drogue douce d'ailleurs, engendrant des comportements inappropriés vis-à-vis de ses employés et même de ses clients. Il y a aussi ce qu'on ne réalise pas lorsqu'on est sous quoi que ce soit.
J'ai très envie de réagir simplement sur la notion de drogue douce et de drogue dure. Il n'y a pas de drogue douce ou de drogue dure, on est sur des produits psychoactifs, ce sont des produits qui modifient le comportement, qui ont des intensités variables, qui sont toxiques et qui ont des caractères addictogènes potentiellement forts. Donc attention
à
ces idées reçues.
Alcool et drogue d'ailleurs dans les dépistages.
Tout à fait.
Très très rapidement parce qu'on y est là. Vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, je voulais simplement dire que le phénomène est plus grave quand c'est une personne clé de l'entreprise. Quand c'est une personne
clé. Ça n'échappe pas au patron, c'est aussi ça que dit le témoignage.
Quand vous avez un créateur, quand vous avez, un petit génie de l'informatique, quand vous avez un grand restaurateur, c'est compliqué, vous voyez. C'est compliqué de pouvoir sanctionner et traiter le problème.
Les amis, merci beaucoup. Merci à vous. Tous les trois de votre participation. Merci à tous pour vos nombreux appels. Je ne vous lâche pas quand même sans remercier Philippe Lefebvre et Lionel Thompson pour la jolie semaine à la rédaction en chef du 18-20, à Maury Baucher, Aurore Mansip, Nathalie Poitvin sont à la programmation, Ludovic Asselot à la réalisation, le site et la doc, c'est Ryan Seiby. Et derrière la vitre, au pilotage de la console, il y a Paola Collin et Ronan Mahé.
On en parle.
Et si on préférait l'électricité? On en parle avec Géraldine Paloc chez EDF. Préférez l'électricité, pourquoi?
Parce que toutes les énergies ne se valent pas. Les énergies fossiles, pétrole et gaz, émettent beaucoup de CO2.
Et l'électricité?
En France, elle est légère en CO2. L'objectif, c'est donc de remplacer les consommations de pétrole et de gaz par de l'électricité pour réduire notre empreinte carbone.
Merci Géraldine.
Bilan 2024 RTE. Plus d'infos sur edf.fr/climat. L'énergie